7-9 de Matin Première.
Belle matinée à l'écoute de Matin Première. L'œil scientifique de Joanne Monté. On va parler vaccins à 7h25. Bonjour Joanne.
Bonjour.
Les vaccins contre le Covid-19 qui frappent à nos portes et à nos peurs. Aussi, ils suscitent des espoirs, mais aussi beaucoup d'inquiétudes et d'hésitations dans une partie de la population. On va commencer avec vous, Joanne, par une question plus psychologique, avant d'aborder les aspects plus techniques du vaccin. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ce vaccin ?
Ben, figurez-vous que c'est un très bon point de départ pour réfléchir, parce qu'en fait, on aurait vraiment tort de mettre tous les hésitants dans le même sac en les qualifiant d'anti-vax et en les diabolisant. Et c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est Olivier Klein qui est psychologue à l'ULB et qui l'écrit sur son blog. Et je voulais partager cette idée-là avec vous, que les peurs, en fait, sont vraiment légitimes, parce que c'est tout à fait nouveau, et ça, il faut le dire. Et il y a des gens qui sont pas anti-vaccins par principe, mais qui s'interrogent légitimement sur ces vaccins-ci contre le Covid-19. Donc, on va commencer par ne pas juger, ne pas stigmatiser, ne stigmatiser personne et dire qu'il y a des vraies questions et on va les prendre une par une.
Bon, on va donc prendre ces questions. Première question, Joanne, oui. Est-ce qu'il est possible, ça c'est vrai que ça a étonné beaucoup de monde, est-ce qu'il est possible de fabriquer un vaccin sûr et efficace en si peu de temps ?
Allez, on commence par le mot efficace. Efficace à 100%, ben non, ça n'existe pas. Mais pour les vaccins de Pfizer et Moderna, les firmes ont communiqué une efficacité à 95%. Alors, ce sont des vaccins, il faut le savoir, qui reposent sur une technique qui n'a jamais été utilisée chez l'homme et qu'on appelle l'ARN messager. Il y a aussi le vaccin d'AstraZeneca, qui, lui, fonctionne avec une autre technique, plus classique, avec un vecteur viral. N'ayez pas peur, je vous explique. On utilise un autre virus inoffensif, un adénovirus, comme vecteur. On y insère une petite partie du virus responsable du Covid-19. AstraZeneca, hier, a annoncé une efficacité de 70% et même, il faut le préciser, de 90% quand elle a testé une autre méthode où elle a essayé de donner d'abord une demi-dose et puis, dans un deuxième temps, une dose entière. Bon, tout ça, donc, c'est plutôt bien comme signe avant-coureur d'efficacité. Mais il faut préciser que ces résultats méritent des éclaircissements parce que ce sont seulement des communiqués de presse qu'on a reçus et pas encore des publications scientifiques détaillées. Donc ça, c'était pour l'efficacité. Maintenant, le mot sûr, un vaccin sûr, c'est vrai qu'on peut se demander si cette vitesse des essais cliniques est synonyme de risque accru. Et alors là, avec Grégoire Heckmann, c'est bien, on a sondé l'avis d'Éric Muraille qui connaît les vaccins comme sa poche. Il est maître de recherche au FNRS, immunologiste et biologiste attaché à l'ULB.
La durée moyenne de développement d'un vaccin est de 8 ans. Ici, on est à moins d'une année. Donc, je comprends très bien que ça inquiète. Donc, il faut savoir qu'aucun vaccin n'est sûr à 100%. Et généralement, ce qui détermine le fait qu'on approuve l'utilisation d'un vaccin, c'est la situation sanitaire. Donc, il faut souligner qu'ici, nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle. Le Covid-19 a causé plus de 1,2 million de morts, c'est-à-dire plus que le HIV et la malaria sur une année. Et donc, globalement, tout vaccin qui apporterait une protection substantielle aurait forcément un effet positif et un bilan positif.
Bon, et les effets secondaires alors, Joanne ?
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de vue sur une longue durée. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des effets indésirables, ils sont observés durant les 6 premiers mois de la vaccination lors des essais cliniques. Donc ça, on peut le voir. Et les réactions au vaccin, elles ont lieu le plus souvent dans les 10 premiers jours. C'est généralement des rougeurs, une fatigue, un gonflement à l'endroit de l'injection, donc des effets bénins. Et ces essais cliniques, il faut savoir aussi qu'ils sont réalisés, d'accord, depuis peu de temps, mais sur un nombre très 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 important d'individus. Ici, pour Pfizer, c'est plus de 21 000 et qu'aucun effet grave n'a été rapporté. Bon, il y a 10% des sujets vaccinés qui ont eu des réactions bénignes.
Alors, autre question qu'on entend parfois sur le vaccin, peut-il être un moyen d'organiser une surveillance de masse des populations ?
Bah, écoutez, envisageons tout. Je vais vous répondre que non, vous ne serez peut-être pas tout de suite convaincu comme ça, mais bon, déjà, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire chez nous. Donc, si vous voulez nous surveiller, il faudrait imposer, ce qui n'est pas le cas. Mais l'immunologiste Éric Muraille a deux autres arguments intéressants pour dire que non, ça ne risque pas d'arriver.
La première, c'est qu'énormément de données privées sont déjà collectées via les réseaux sociaux, les smartphones, et ainsi de suite. Donc si vous voulez protéger vos données privées, il est préférable de ne pas utiliser un smartphone ou les réseaux sociaux plutôt que de ne pas vous faire vacciner. Et également parce que techniquement, introduire ces fameuses puces dans un vaccin demanderait, je dirais, une complaisance de la part de toutes les autorités au niveau international, ce qui est vraiment extrêmement peu crédible. En tout cas, aucune donnée, je dirais, disponible ne suggère que ce type de stratégie n'a même été évoqué quelque part.
Alors, dernière question, oui. Peut-être, Joanne, sur ce vaccin. Est-ce qu'il peut modifier notre matériel génétique?
C'est une bonne question quand même, parce qu'on la pose surtout pour la toute nouvelle technique de vaccin à ARN messager de Pfizer et Moderna, parce qu'on injecte de l'ARN, du code génétique, qui va venir donner l'ordre à nos cellules de fabriquer la protéine du coronavirus, et donc en réaction, on va produire des anticorps. Mais la réponse est pas du tout. D'abord, nos cellules savent très bien faire la différence entre notre patrimoine génétique composé d'ADN et l'ARN du vaccin. Ensuite, notre organisme va très vite dégrader et éliminer cet ARN du vaccin, et cet ARN n'arrive pas dans le noyau de nos cellules. Enfin, on a beaucoup utilisé ces vaccins à ARN chez l'animal, et là, on n'a noté aucune modification génétique, donc il n'y a aucune raison de croire que ça peut se produire.
Bon, très bien, fact-checking à lire également sur notre site internet, joelmonterrtbf.be/info. Fact-checking réalisé avec Grégoire Regmans. Merci à vous.